says nothing to hold you.
L'émission que vous allez entendre est une rediffusion.
Est une rediffusion.
Est une rediffusion. He said.
Bienvenue à Une heure en Palestine, animé par Palestine 13, groupe local de l'association France-Palestine Solidarité. D'abord, un rappel de l'agenda du site Palestine 13. Ce vendredi 9 janvier à 19h45, au Cinéma des Variétés, en avant-première, un magnifique film, Palestine 36, de Anne-Marie Jassier. À réserver dès maintenant, suivi par un débat. C'est ce vendredi 9 janvier au Variété à 19h45. Nous accueillons à cette émission Claude Zurbach, de profession ingénieur dans la recherche, investi depuis de nombreuses années dans le mouvement de soutien à la Palestine et responsable du site Chronique de Palestine. Claude, tu es venu le 5 novembre dernier à Radio Galère pour nous présenter le livre que tu as traduit de l'anglais « Ces chaînes seront brisées, récits palestiniens de lutte et de résistance dans les prisons israéliennes », édition Scribest sous la direction de Ramzi Baroud. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un deuxième ouvrage dirigé par Ilan Pappé et Ramzi Baroud, « Notre vision pour la libération ». Des personnalités palestiniennes s'expriment. Tu as participé également à cette traduction en français. Pour sa publication en 2024 par les éditions La Guillotine, je lis sur la quatrième de couverture. 30 personnalités s'appuient sur leur expérience pour relater leur histoire, retracer celle de la Palestine et aborder ce qui devrait être mis en œuvre à l'avenir pour que leur vision soit partagée et que advienne enfin la libération. Des récits que j'ai pu lire, Claude, se dégage une profonde force de vie. Ce livre peut, je crois, nous inspirer, nous éduquer. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons écouter quelques extraits. Commençons d'abord par un regard plus large sur l'actualité géopolitique occidentale, avec quelques mots sur le coup de force des États-Unis au Venezuela.
Bonjour, oui. Donc, a priori, il peut sembler difficile de faire une jonction entre un coup de force au Venezuela mené par les États-Unis et la question de la Palestine. Mais je tiens quand même à situer un peu ce cadre, à fixer ce cadre, puisque la question qui nous occupe avec le Venezuela, c'est une pratique aujourd'hui qui est largement répandue, qui est une pratique de rapine basée sur des coups de force en dehors de toute légalité internationale, et qui préfigure un monde où tout se joue sur ces bases-là, c'est-à-dire que c'est le plus violent qui va s'imposer et qui va prendre les ressources dont il a besoin pour ce qu'il estime être sa propre survie ou son propre développement. Donc, parler du Venezuela et des problèmes liés à son pétrole, c'est aussi parler de la Méditerranée, puisque la question des champs d'hydrocarbures est une question extrêmement sensible en Méditerranée de l'Est depuis longtemps, et explique pour une part les politiques internationales, au moins au niveau européen, vis-à-vis de la question palestinienne. Alors, pour revenir rapidement sur le Venezuela, je tiens quand même à dire que bon, on, c'est une situation qui est complexe, puisque on a une présidente par intérim qui s'appelle Celia Rodriguez, qui a été nommée par un fonctionnement normal des institutions de son pays, donc avec une validation de la Cour suprême, une approbation de l'Assemblée, le soutien de l'armée. Donc on a un pays qui continue à fonctionner de manière un petit peu habituelle, mais qui se retrouve maintenant complètement sous domination américaine du point de vue de ses ressources énergétiques. Donc Celia Rodriguez, il ne faut pas forcément lui en vouloir hein, d'avoir cédé, comme apparemment c'est le cas, sur le fait de devoir livrer des dizaines de millions de barils de pétrole aux États-Unis, qui vont être payés en dollars, mais cet argent sera gelé dans des banques américaines, et c'est le gouvernement américain qui décidera de son utilisation. C'est-à-dire que c'est une mise sous tutelle qui permettra à l'État vénézuélien de fonctionner selon le bon vouloir et les orientations des États-Unis. C'est ce qu'ils ont déjà fait par rapport à l'Irak. Juste un rappel, c'est que bon, les compagnies américaines en Irak payent effectivement le pétrole qu'elles exportent à partir de l'Irak, mais cet argent est versé sur des comptes de banques américaines. Et ces banques fournissent chichement tous les mois le minimum qu'il faut pour que l'État irakien puisse fonctionner. C'est un petit peu moins d'un milliard de dollars. Pour le reste, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il advient et effectivement des fonds qui sont utilisés, rentabilisés. Pour revenir à la question de la Méditerranée, l'Union européenne, les pays européens sont capables effectivement des mêmes comportements, puisqu'on se souvient de l'attaque sur la Libye en 2011, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir sur Kadhafi à l'époque, le type d'autorité qu'il représentait, le type de régime. Il y a eu un pillage littéral quoi, des avoirs financiers libyens et il y a eu une volonté d'appropriation de ces ressources pétrolières. Il y avait beaucoup de raisons hein, qui faisaient que les pays européens ne supportaient pas la Libye. Mais aujourd'hui, bon, on estimait à l'époque qu'il y avait à peu près 150 milliards de dollars d'avoirs libyens. Sur ces 150 milliards de dollars, quand on fait des recherches aujourd'hui, on arrive à en situer à peu près une quarantaine. On ne sait pas ce qu'il est devenu des autres. Et l'Union européenne a permis récemment à une banque belge, par exemple, qui détient sous mandat de l'ONU 15 milliards de dollars libyens, de les faire travailler sur les marchés financiers et de les rentabiliser. Donc ils les ont rentabilisés, ils en ont tiré 2,5 milliards de dollars qui ont disparu dans la nature, avec l'aval de la Commission européenne. Donc ce sont des pratiques qui aujourd'hui se développent à très très grande échelle, qui sont des pratiques de pillage. Et en Méditerranée de l'Est, il y a des ressources en hydrocarbures qui sont extrêmement importantes, qui appartiennent pour une part aux Palestiniens, qui sont au large de Gaza. Donc il est exclu d'avoir n'importe quelle autonomie politique qui permettrait aux Palestiniens de gérer eux-mêmes leurs ressources. Donc ça, c'est un enjeu central dans les questions de géopolitique aujourd'hui, et ça touche la Palestine. Alors, je termine sur l'Amérique latine en disant que il faut tout de même savoir que Israël intervient depuis longtemps dans le continent sud-américain, qu'il a soutenu régulièrement depuis des décennies les pires régimes autoritaires, tortionnaires, prédateurs qu'on puisse imaginer, avec le soutien des États-Unis, particulièrement la Colombie, le Guatemala, le Nicaragua, le San Salvador et j'en oublie, et l'Argentine. Donc il y a une longue pratique d'intervention israélienne en Amérique latine qui aujourd'hui s'est encore manifesté concernant le Venezuela, puisque le Venezuela, au niveau international, avait une attitude très pro-palestinienne, et ça depuis l'époque de Chavez. Alors, bon, donc je ne vais pas développer plus sur la question des hydrocarbures, ce qui se passe au Venezuela, en quoi ça nous ramène finalement à la Méditerranée, à la Palestine, à ses ressources et au refus international qu'il y ait une entité politique autonome représentant les Palestiniens, parce qu'à ce moment-là, elle aurait des revendications sur ses ressources, ce qui est intolérable. Bon. Alors, un dernier point par rapport à ça, c'est que on a toujours dit, depuis le début du génocide, que finalement, ce qui se passait à Gaza préfigurait le monde de demain si on n'y prenait pas garde. Bon, le monde de demain, il est déjà là, quoi. C'est-à-dire que tout s'accélère à un point. Bon, la pratique aujourd'hui qui est appliquée au Venezuela, et puis ce qui se passe au Soudan, qui est innommable, qui est commis principalement par les Émirats Arabes Unis, bon, avec le soutien américain et tout. Mais bon, toutes ces pratiques ont toujours existé par le passé, mais aujourd'hui, elles ont trouvé une banalisation, une normalité, qui montre que c'est une pratique de géopolitique et que Gaza finalement a levé un certain nombre d'obstacles, puisqu'on estime absolument pas nécessaire aujourd'hui, même à la limite, de devoir justifier quoi que ce soit. Bon, donc ce contexte général que j'ai voulu un peu fixer, c'est pour marquer les enjeux et pour dire que quand on s'attaque à la question de la Palestine, on s'attaque à des choses qui sont énormes, parce que gagner sur la Palestine, c'est à ce moment-là dérouler une dynamique, permettre une dynamique qui remettra en cause énormément de rapports de domination.
Parle-nous du contexte actuel en Palestine.
Oui, alors sur le contexte en Palestine, c'est un peu, il faut trouver le bon registre, quoi, parce que on parle de Gaza, on parle de la Cisjordanie, on va parler de Jérusalem. On parle de choses qui sont indicibles. Donc j'ai eu l'occasion d'écouter une interview très intéressante là, de Javier Bardem, c'est ça qui a fait un film récemment aussi sur la Palestine avec une actrice palestinienne. Et il expliquait que parler d'occupation, c'est un mot, occupation. Occupation, ça se décline de beaucoup de manières. Mais l'occupation en Palestine, c'est un mot qui contient trop de choses. C'est-à-dire ça contient la peur quotidienne, ça contient les Palestiniens qui sont tués tous les jours, les gens qui sont malades, qui ne sont pas soignés, l'interdiction de se déplacer, les checkpoints. Dans le cas de Gaza, ce qu'on appelle finalement une guerre d'extermination, qui a changé un petit peu de rythme avec ce prétendu cessez-le-feu qu'on nous présente comme une accalmie, mais qui en fait en est vraiment pas une. Donc, le problème de vouloir exprimer tout ça est un peu compliqué. Donc on est obligé de donner des détails. Hein. Alors, on a changé de rythme sur l'extermination, mais l'extermination est toujours là. Et elle se déroule de manière que je dirais soft, moins visible, écrasée par des événements internationaux comme ce qui se passe au Venezuela. Et là, quand on détaille et quand les informations finissent par remonter, on se rend compte par exemple qu'il y a une politique délibérée qui est de diminuer la population palestinienne de Gaza par n'importe quel moyen, et on s'attaque donc à des tranches de la population. Alors quand vous êtes une personne âgée, bon, c'est mon cas, hein, bon, on sait tout de suite qu'il faut être vigilant sur des questions de diabète, de tension artérielle, etc. Donc ça implique un certain nombre de traitements pour nous, de suivi médical, qui font qu'on gère ça et que l'on vit à peu près normalement et qu'on ne court pas de grands risques au niveau quotidien. Aujourd'hui, dans Gaza, pour diminuer l'espérance de vie, il faut faire mourir les vieilles personnes. Donc il n'y a pas de médicaments pour le diabète, c'est interdit d'entrée. Il n'y a pas de médicaments contre l'hypertension. Il n'y a pas de médicaments pour tout type d'infection, etc., qui sont des phénomènes plutôt liés à l'âge. Tout ça. Donc, on va faire dégringoler l'espérance de vie moyenne palestinienne de façon terrible. Et ces données, elles vont apparaître dans quelques années, quand on aura des données statistiques récoltées sur le terrain, et qu'on sera capable de fixer des courbes. Ensuite, on va s'attaquer aussi aux enfants, aux nourrissons. Donc, il n'y aura pas de lait maternisé. Aujourd'hui, les enfants qui naissent en Palestine, parce que la société veut continuer à vivre, veut continuer à exister, c'est un peuple qui refuse de mourir. Et ben, quand vous êtes enceinte, il n'y a pas de suivi. Voilà. Bon, donc il est quasiment impossible d'avoir un suivi digne de ce nom.
Là, tu parles de Gaza.
De Gaza, toujours, oui. Voilà. Et donc la plupart des enfants naissent un petit peu prématurés, donc extrêmement affaiblis. Ensuite, quand il faut les allaiter, si vous êtes anémié parce que vous êtes mal nourri, et bien à ce moment-là, ça remet en question fortement le développement normal de l'enfant. Et aujourd'hui, il y a des bébés qui meurent parce qu'il n'y a pas d'abri, parce qu'il y a les tentes, parce qu'il y a les tempêtes, il y a le mauvais temps et tout, il y a le froid. Il n'est pas besoin d'un froid extrême pour tuer un bébé. Les enfants sont extrêmement sensibles. Une onde de choc d'une bombe à proximité les tue. Enfin, ils n'ont pas les protections qui sont celles d'un corps d'adulte. Donc la mortalité des enfants, de toute façon, va grimper. Il y a aussi les gens qui sont déjà malades, qui ont des maladies chroniques, les cancers qui existent comme partout, peut-être plus encore en Palestine aujourd'hui. Et ben, on interdit aux gens de se déplacer pour aller à l'extérieur et se faire soigner. Donc depuis 2 ans, on estime qu'il y a 1500 personnes qui sont mortes et qui auraient pu être soignées à l'extérieur. Et aujourd'hui, Rafah est fermée, personne ne sort. Donc, sauf s'il y a des combines pour mettre des gens dans des avions pour les envoyer en Afrique du Sud. Et on s'appuie là-dessus sur des trafiquants, quoi. Donc la situation, le contexte palestinien est redoutable, terrible. Et en même temps, c'est pas une nouveauté. Ce sont des pratiques qui sont développées au fil des années et qui aujourd'hui atteignent un point critique peut-être qu'on n'avait pas connu. Mais en soi, c'est une politique qui s'applique depuis des années et qui est extrêmement organisée et extrêmement pensée. Vous avez des nutritionnistes les Israéliens qui travaillent sur la question de comment nourrir la population de Gaza aujourd'hui. Donc on va leur donner du sucre, mais on va pas donner de protéines. Bon. Donc on peut très bien maintenant avoir des gens qui vont devenir obèses, mais qui vont être très mal nourris et qui vont développer plein de carences. Et donc être sujets à 36 maladies. Vous avez aussi des gens qui vont se réveiller sur la psychologie infantile pour savoir qu'est-ce qui va plus traumatiser, moins traumatiser. Qu'est-ce qui va remettre en question le développement normal d'un individu alors qu'il est encore au stade de l'enfance? On atteint des niveaux de perversion et de cruauté qu'il faut appeler par leur nom. C'est terrible, terrible. Et tous les mots que l'on peut employer pour décrire ça sont de toute façon en dessous de la réalité. Le vocabulaire n'est plus adapté. Si ce n'est de décliner des mots en cides, biocide, médicide, scolasticide, épistémicide, enfin... infanticide, féminicide, enfin on peut tout essayer, quoi. On peut construire des mots, j'en découvre à la limite tous les jours, si je fais des recherches là-dessus. Bon, c'est pas réjouissant de dire ça, mais il faut le savoir, et il faut savoir à quoi on s'attaque et contre quoi on se bat, en tout cas.
Et les mouvements de solidarité internationale?
Oui, alors je vais continuer sur un registre pas facile, c'est que les Israéliens au niveau international reprennent du poil de la bête. C'est-à-dire cesser le feu, tout le conditionnement qu'il y a autour, disant on passe à autre chose, il n'y a plus de guerre, finalement les problèmes pour l'instant sont gelés. Au niveau international, les groupes de pression sont plus actifs que jamais. Et les groupes de pression travaillent dans le sens de brider, fermer la voie palestinienne et pro-palestinienne. Alors là, vous avez une multitude d'initiatives qui sont prises. Par exemple, les banques israéliennes ont vraiment renforcé leur système de contrôle sur tous les mouvements financiers qui permettent d'aider quelques associations palestiniennes sur place. Bon, il y a des problèmes de crise de liquidité dans Gaza, parce qu'il n'y a plus de représentation bancaire, mais il y a quand même un peu d'argent qui circule. Et à certains moments, il est peut-être possible malgré tout de faire rentrer un petit peu d'argent par les organisations internationales. Mais là, maintenant, tout est contrôlé à un point tel que ça devient très compliqué de même vouloir aider quelqu'un qui fait un crowdfunding, qui fait un appel à l'extérieur, en disant, en supposant que c'est exact, bien sûr, que son enfant est malade, il faut absolument qu'il puisse sortir, il faut pour ça des moyens, enfin bon. Donc, donner de l'argent, même dans des cas comme ça, devient complexe et peut être refusé par le système bancaire israélien, mais pas que israélien, aussi international. Ensuite, il y a aussi une autre difficulté qui est le financement justement des projets palestiniens associatifs. Il y a une petite organisation qui s'appelle Samir qui a lancé des campagnes de financement pour faire de la reconstruction dans Gaza. Donc là, il y a des articles qui remontent, qu'on a publiés sur Chronique de Palestine, où on voit qu'avec un minimum de moyens, les gens s'organisent, nettoient un peu les rues, essayent de réhabiliter des débuts de quartiers dans Gaza, réhabilitent par exemple une partie de l'université islamique pour reprendre des cours. Donc il y a des photos, il y a effectivement des cas de cours qui ont repris. Enfin, c'est toujours assez époustouflant, émouvant et puis impressionnant, quoi, de voir qu'il y a une pulsion de vie qui est tellement forte et la vie trouve toujours son chemin, même dans les chemins les plus étroits. Enfin,
et on a vu récemment la remise des diplômes des médecins.
Oui, c'est ça.
Qui était extraordinaire. Oui.
Plus d'une centaine de jeunes filles et jeunes gens qui ont reçu leur diplôme de médecin. Mais oui, je sais que cet article est paru récemment, je ne sais plus où. Mais en tout cas, c'est des faits extraordinaires. Donc pour ça, il faut quand même des moyens. Et du fait de la campagne internationale sur le fait qu'il y a un cessez-le-feu, que la situation est moins dangereuse, il y a forcément une baisse des financements. Donc Samir a, par exemple, de réelles difficultés. Alors ça, c'est pour un aspect des difficultés. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est les attaques sur le mouvement de solidarité. Donc là, on est plus à l'extérieur de la Palestine. Alors aux États-Unis, ça a été terrible. Donc les mouvements de solidarité dans les universités ont été fortement réprimés. Déjà à l'époque de Biden, hein, c'était avant l'arrivée de Trump, qui n'a fait qu'accélérer les choses. Ensuite, vous avez le cas en Angleterre, où les gens d'Action Palestine sont en grève de la faim depuis quasiment 2 mois. C'est-à-dire que les gens sont en risque de mourir, de décéder. Ce qui montre aussi la détermination qu'on peut trouver dans le mouvement de solidarité, qui n'est pas quelque chose de formel, où les gens sont profondément, profondément engagés. Et en France, on a une initiative là, qui se déroule en ce moment, qui est une proposition de loi 575, dont on va certainement pas mal parler, qui doit encore passer par la commission des lois avant d'être proposée au vote du Parlement. C'est une loi totalement liberticide. Et cette loi, c'est que si même vous dites à un moment donné que la principauté de Monaco, c'est un état fantoche, que c'est un état de pacotille, et que ça ferait bien de disparaître, ben on peut vous mettre 5 ans en prison et vous infliger 75 000 euros d'amende. C'est-à-dire que ça, c'est le déroulement extrême, si vous voulez. Mais dans cette proposition de loi, il y a une confusion totale qui est faite entre sionisme et judaïsme. Et ça, c'est terrible. Et objectivement, c'est une loi qui mettra en danger la communauté juive, forcément, en l'assimilant aux choses abominables, innommables, qui sont commises en Palestine, prétendument en son nom.
Donc il faut rester vigilant, il faut signer les pétitions, il faut s'informer.
Oui, oui, il faut s'informer. Il faut s'informer et il ne faut pas mésestimer les dangers que court le mouvement de solidarité aujourd'hui.
Ça va passer le 19 janvier, quelque chose comme ça?
Je crois que c'est le...
Bientôt.
Oui, le 19 janvier. Alors, je ne sais pas exactement quel est le rôle de la commission des lois, à quel moment elle va intervenir. Mais on peut espérer qu'à la commission des lois, il y a quand même des barrières qui soient levées. Bon, après, il y aura d'autres recours, hein, mais là, ce serait un recul fantastique du point de vue de la liberté d'expression.
Alors, Claude, est-ce qu'on peut aborder maintenant les perspectives en Palestine? Peux-tu introduire le livre « Notre vision pour la libération » et nous parler de Ilan Pappé, Ramzi Mahmoud?
Mm-hmm. Alors, je vais être sur cette partie-là, juste l'introduction sur le livre, je vais être un peu synthétique, hein, parce que sinon, ça appelle beaucoup de développement. Ce livre a le mérite de donner des perspectives. Alors, par rapport à tout ce que j'ai exposé précédemment, je veux dire, ça donne une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde totalement fermé et totalement hermétique. Quand même si c'est une perspective à moyen terme, puisque c'est un livre qui s'appuie sur des contributions de grands intellectuels palestiniens, de fortes personnalités, qui sont quelque part l'avenir de la Palestine, le jour où elle existera en tant qu'État indépendant et prenant ses propres décisions. Elle aura son système judiciaire, elle aura son système institutionnel, elle aura tout ce dont elle a besoin pour faire vivre la société palestinienne. Et ces gens sont représentatifs de cette perspective. Et en cela, représentatifs, mais comme le dit Ramzi Mahmoud dans son introduction, ce ne sont pas des intellectuels détachés des réalités. Ce sont des gens très impliqués. On le verra tout à l'heure dans les présentations qui seront faites de quelques personnalités, qui sont de fortes personnalités. On verra à quel point ils ont une relation fusionnelle avec l'histoire de la Palestine, l'histoire de leur pays, l'histoire de leur nation, et la manière dont ils envisagent leur vie professionnelle, leur propre projet dans ce cadre-là. C'est extrêmement intégré, extrêmement inclusif, c'est très beau. C'est bon. Donc les choix que nous avons faits, j'espère que seront les bons, et vous donneront une bonne idée du contenu du livre. Alors, il y a également Ilan Pappé. Alors, Ilan Pappé, il est israélien, faut le noter, c'est important. Bien qu'il ait quitté Israël il y a pas mal d'années pour aller maintenant enseigner en Grande-Bretagne, Ilan Pappé a sorti un livre récemment, mais qui n'existe pas en français, qui s'appelle « Israel on the Wings ».
Peut-être tu vas le traduire à un moment donné,
oui,
espérons.
Pour ça, il faut trouver un éditeur, c'est la principale difficulté. Mais bon... La traduction en elle-même est un gros travail, mais l'édition, c'est encore plus difficile. Alors, oui, je souhaiterais effectivement qu'il y ait une version française. Ilan Pappé a une perspective, qui est la sienne, hein, mais c'est un Israélien, j'insiste sur ce point. Il dit, Israël a tellement de contradictions internes qu'il va finir par imploser. Et que il y aura à un moment donné l'apparition d'une Palestine désionisée, sans sionisme. Et alors ce qu'il dit aussi, alors ça vraiment il faut bien le noter, c'est que à ce moment-là, déterminer l'avenir politique de la Palestine, ce sont les Palestiniens qui en auront la charge. Ce ne seront pas les Israéliens qui auront choisi de rester, ce seront les Palestiniens. Et ils ont besoin pour ça d'une organisation de libération de la Palestine qui soit revigorée, restructurée, revue dans sa représentation et qui sache intégrer aussi les composantes de la résistance islamique, donc le djihad islamique et le Hamas. C'est le déroulement de sa pensée. Et ensuite, ce qui est très méritoire, même si sur le coup on a un peu du mal à rentrer dans sa logique, c'est qu'il se positionne encore plus loin et il parle de la réconciliation au sens où il y a eu des organisations de réconciliation en Afrique du Sud, comme il y en a eu en Argentine après les horreurs commises sous le régime des généraux. Et il dit voilà comment ça se passerait, c'est-à-dire qu'il y aurait des réconciliations possibles et d'autres qui ne le seraient pas. Et des gens qui seraient condamnés, qui feraient de la prison pour ça. Donc, réconciliation, oui. Et ensuite, il termine sur le droit au retour. Et il montre l'applicabilité du droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens. Et il explique en quoi c'est possible. C'est pas le premier à l'expliquer, parce qu'il y a eu déjà un travail de la part des Palestiniens là-dessus. Mais bon, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, le droit au retour est central aussi dans sa démarche. Alors voilà, donc ce sont deux fortes personnalités, Ramzi Baroud et Yann Pappé, qui souhaitent tracer une perspective en mettant à contribution de grands intellectuels palestiniens.
Et ça reste possible, et il faut garder cette vision. Alors Claude, tu as choisi trois passages de ce livre par trois personnalités très différentes.
Oui.
Est-ce que tu veux introduire ton premier choix?
Oui, très bien, oui. Bon, j'ai fait une sélection qui est forcément incomplète, hein, probablement injuste, mais qui répond aussi à mes centres d'intérêt à moi et ce à quoi je réagis le plus. La première présentation, c'est le père Manuel Moussalam, évêque palestinien. C'est vraiment une forte personnalité et les extraits qui vont être lus dans un petit moment par Jacques sont vraiment saisissants d'expressivité et donnent un aperçu comme je disais tout à l'heure, la profonde fusion qu'il y a entre la pensée et les émotions du père Moussalam et l'histoire de la Palestine et l'histoire de son peuple. Donc bon, Manuel Moussalam aussi a le mérite, rien que par sa présence et son charisme, de nous rappeler que le berceau de la chrétienté, c'est la Palestine. Bon, on a développé après des images avec des Christs blonds, etc., des yeux bleus, et tout ce qu'on veut, on l'a occidentalisé au maximum. Mais le berceau du christianisme, une des trois religions du livre, ben, c'est la Palestine. Et Moussalam, il développe, c'est important de le faire, quoi. Il explique en quoi l'appropriation de la Palestine par les juifs sionistes est une escroquerie politique et intellectuelle et est une déformation de textes bibliques. Ces textes bibliques qui sont mis en cause et sur lesquels il développe un petit peu, peuvent être vus à 36 regards différents selon les objectifs politiques plus ou moins avoués ou malveillants que l'on peut avoir. Et il pense que, au contraire, il y a un héritage et une tradition parmi les descendants d'Abraham qui est inclusive et que la Palestine et le monde ont été donnés finalement à tous les descendants d'Abraham. Alors, descendants d'Abraham, c'est aussi la perspective qu'on avait du monde à cette époque-là quand ces textes ont été écrits, ont été diffusés. Mais c'est extrêmement inclusif. Ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas un peuple au détriment des autres. Non, c'est tous les descendants d'Abraham. Et dans un des extraits qui va être lu dans un tout petit moment, on voit à quel point la question des religions et de leur fusion et de leur unité, finalement, est importante pour le père Moussalam. Alors peut-être on peut lire un... Alors c'est la lecture de Jacques, hein, va être de deux extraits différents, mais qui vont enchaîner, et que j'ai choisi les considérant très représentatifs.
Pardon, c'est obligé. La tempête de météores qui s'est abattue sur la Palestine dans le cadre du mandat britannique, a brûlé tout ce qui était sacré sur notre terre sainte. Les églises et les mosquées, ces lieux les plus sacrés, ont été brûlés. Les oliviers, les arbres les plus sacrés, ont été brûlés. Le phosphore blanc a frappé nos villes, nos villages et nos camps de réfugiés. Les humains, la plus sainte des créatures, ont été brûlés. Les enfants, la plus sainte des créatures humaines, ont été brûlés. La dignité même des Arabes palestiniens privés de leur terre et de leur peuple a été brûlée. La vérité et la justice ont également été brûlées lorsque la terre a été soi-disant promise à ceux qui venaient du bout du monde, mais pas à ses propres enfants. En fait, c'est notre humanité même qui a été brûlée lorsque l'armée israélienne et les colons juifs armés se sont attaqués à nous comme des loups. Je n'avais que 9 ans lorsque les bandes sionistes ont envahi notre Palestine. La Haganah, l'Irgun, le groupe Stern et le Palmach se sont emparés de notre terre par la force, massacrant notre peuple et incinérant nos champs, nos vergers et nos maisons. Ils ont démoli, tué et expulsé autant de notre peuple qu'ils le pouvaient. Au lieu de punir les coupables, les Nations Unies ont offert aux envahisseurs, qui ne possédaient alors que 7% des terres, 56% de la Palestine, nous laissant la portion congrue. Nous avons refusé, nous devions refuser. Les dirigeants sionistes se disputèrent. David Ben-Gourion accepta l'offre, tandis que Menahem Begin déclara invalide le partage, affirmant que toute la Palestine, y compris la Transjordanie, appartenait au peuple juif, et pour toujours. Finalement, Israël a été fondé sur les ruines de notre patrie détruite. Nos propriétés ont été déclarées comme étant sans propriétaire et illégalement appropriées par le nouvel État. Les réfugiés palestiniens qui ont été expulsés et contraints de fuir leur maison se sont vus refuser et se voient encore aujourd'hui refuser leur droit au retour, bien que ce droit soit inscrit dans le droit international. La plupart de nos villages ont été entièrement ou partiellement détruits. Les récoltes de la saison ont été laissées à l'abandon. Des centaines de milliers de paysans palestiniens y ont été interdits de récupérer leurs récoltes. De nouvelles colonies et villes juives ont rapidement vu le jour à la place de nos villes et villages. La Nakba était à notre porte. Un événement catastrophique dans notre histoire à nul autre pareil. Notre lutte contre Israël avait commencé et elle se poursuit encore aujourd'hui. Pour nous, Palestiniens, il s'agit d'une lutte pour la vie ou la mort, pour la survie ou l'anéantissement. Ce n'est même pas une lutte pour la paix, mais pour la préservation même de notre civilisation et de notre existence. C'est une lutte pour le caractère sacré de notre peuple, son humanité et son droit inaliénable à la justice. En tant que Palestiniens, chrétiens et musulmans, nous ne sommes pas liés par la manipulation politisée des paroles de Dieu. Pour nous, il s'agit d'une terre volée et d'un peuple dépossédé. La Palestine est notre mère, privée de ses enfants, et nous sommes privés de sa tendresse. Nous, le peuple de Palestine, sommes un. Nous appartenons à une seule civilisation et sommes unis par un seul destin. Pour moi, Al-Aqsa est chrétienne, et la résurrection appartient également à mes frères et mes sœurs musulmans. Chaque musulman martyr est un chrétien martyr, et chaque chrétien martyr est un musulman martyr. Nos jeunes sont tués par le même occupant israélien. Nos maisons sont démolies par le même bulldozer militaire israélien. Nos terres sont volées. Nos lieux saints sont souillés. Nos familles sont brisées. Nos populations sont soumises à un nettoyage ethnique par le même criminel israélien. Les sionistes prétendent que les Arabes palestiniens n'ont jamais constitué un peuple uni. Ces affirmations mensongères ont pour but de tromper le monde et lui faire croire que la Palestine était une terre vide. Mais les 500 villes et villages détruits lors de la Nakba en 1947-48 témoignent du fait que la terre était habitée. Malgré la dépossession de notre peuple, la pérennité de notre langue, de notre identité et de notre culture réfute l'affirmation selon laquelle nous serions autre chose qu'un peuple palestinien ancré dans l'histoire et la spiritualité. La terre et son peuple ne font qu'un, tout comme la rose et son parfum ne font qu'un.
Merci, merci Jacques. nous allons parler maintenant de la deuxième personne donc, que j'ai sélectionnée là, pour la présentation du livre. Il s'agit de Samar Jabre. Alors Samar Jabre donc, est quand même un petit peu connu en France. Va peut-être évoquer des choses très précises à des gens qui nous écoutent. Et il y a quelques années, donc, on a parlé d'elle à l'occasion de la sortie d'un film qui s'appelait « Derrière les fronts », qui a été produit par Alexandra Dolce et qui a été... Bon, qu'on a visionné dans pas mal de salles de cinéma, mais essentiellement à travers le mouvement de solidarité. Bon, en tout cas, ça a un petit peu développé sa notoriété. Samar Jabre est médecin psychiatre, francophone, puisqu'elle a fait ses études de médecine à Paris. Ensuite, elle est retournée en Palestine donc pour sa pratique professionnelle. Et elle a développé finalement... tout un champ d'investigation autour des questions de santé mentale sous occupation. Alors, bon, les questions étaient effectivement traitées, mais elle en a fait un véritable champ d'expertise, d'études et d'intervention. Et à ce titre, elle a été un certain nombre d'années responsable du secteur de la santé, du département de la santé mentale en Cisjordanie, dans le cadre de l'autorité palestinienne. Elle est connue au niveau international aussi parce qu'elle est très investie dans des réseaux de solidarité autour de la santé mentale en Palestine. Elle a fait beaucoup de communication, elle écrit beaucoup. Moi-même, personnellement, j'ai pu la traduire pendant pas mal d'années. J'ai eu la chance de la rencontrer à deux reprises. Et bon, au moment où il y avait encore des échanges à peu près normaux qui étaient possibles avec la Cisjordanie, entre la Cisjordanie et l'extérieur, bon, bah, il était possible d'aller la voir, de mener des interviews... d'assister à son travail professionnel. Aujourd'hui, assurément, cela devient plus difficile. Alors, Samar, elle développe une histoire personnelle qui est touchante hein, dans le livre, puisqu'elle a été très jeune, elle a eu des difficultés liées à un accident au moment de sa naissance, qui fait, selon elle, hein, que ça lui a donné un sens aigu de la différence et puis de la marginalisation et de la difficulté de l'intégration. Ça lui a donné une sensibilité un petit peu exacerbée à tous les aspects finalement qui touchent l'état de la société palestinienne aujourd'hui dans le contexte de la répression et de l'occupation. Et donc maintenant, nous ne lirons pas d'extrait hein, pour une cause de temps, mais Samar Jabre a toujours développé l'idée qu'il fallait un traitement systématique de tous les aspects traumatiques liés au fait de l'occupation. Et c'est à ce titre qu'elle a beaucoup investi dans les réseaux internationaux de solidarité sur la santé mentale. Bon, donc sa lecture est fortement recommandée. Et bon, nous espérons tous qu'elle pourra à nouveau venir en France et éventuellement participer à un certain nombre de réunions publiques. Maintenant, la troisième personne dont je souhaitais dire un mot, c'est également une femme qui se nomme Hanin Zoabi. Hanin Zoabi a été élue à la Knesset pour un parti palestinien arabe-israélien qui s'appelle Tajamoua, qui veut dire patrie, foyer, patrie en arabe. Elle a été donc une dizaine d'années élue à la Knesset dans un contexte qui pour elle était extrêmement difficile puisqu'elle est issue de la minorité palestinienne qui a pu rester en Palestine après 48. Bon, donc elle est de la troisième ou quatrième génération mais des gens de cette époque-là. Mais tout cela a donné quand même lieu à un développement politique lié aussi à un développement démographique, parce qu'aujourd'hui, un cinquième à peu près de la population israélienne est d'origine arabe palestinienne. Et ça a fini par aboutir à une représentation politique, mais complexe, puisque il faut à la fois revendiquer l'identité palestinienne, ne pas se cantonner dans des questions de défense de droits démocratiques ou d'égalité des droits, qui de fait reconnaissent l'annexion de la Palestine par les juifs sionistes, Et il faut, malgré tout, se battre pour le droit à l'expression politique. Alors, elle a subi des violences physiques, des menaces verbales, des difficultés administratives. Toute une violence institutionnelle a été utilisée contre elle et contre ses camarades élus pour les partis arabes. Aujourd'hui, Hanine Zoabi reste une personnalité politique importante. Elle a participé à la flottille du Mavi Marmara, là où une dizaine de militants de la solidarité ont été assassinés par l'armée israélienne dans les eaux internationales en Méditerranée. Et aujourd'hui, elle connaît encore des difficultés. Il y a quelques mois, son domicile a été investi, perquisitionné, elle a été emprisonnée un certain temps, et là maintenant, elle est sous contrôle. Alors, bon, ce qu'on va lire comme extrait de Hanine Zoabi exprime bien toutes ces contradictions de la défense des droits politiques, l'expression politique quand on est palestinien et qu'on se revendique comme palestinien aujourd'hui en Israël. Jacques.
Nous sommes entrés en politique vaincus et prêts à admettre notre défaite. Hassan Jamarid met en garde contre les dangers de la polarisation des conditions politiques pour accueillir une entité battue dans une entité politique victorieuse. Nous avons accepté de participer aux premières élections de la Knesset israélienne en adoptant rapidement le langage des droits, du devoir et de la loyauté envers Israël. Notre participation au système politique israélien était en fait une participation à un projet colonial, avec tout ce que cela implique en termes de soumission et de rancœur, et ne reposait pas sur l'application de véritables principes libéraux, ni par Israël, ni par nous-mêmes. Cela pourrait paraître surprenant de savoir que lorsque j'étais en quatrième année de primaire, j'ai brandi avec mes camarades le drapeau israélien et chanté l'hymne national. L'école nous avait informé que le département de l'éducation enverrait un inspecteur le jour anniversaire de l'indépendance d'Israël et que nous devions décorer la classe pour l'occasion. C'est ce que nous avons fait. 2 ans plus tard, j'ai vu les reportages sur les massacres de Sabra et Shatila avec un profond sentiment de choc. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose d'important, lié d'une manière ou d'une autre à ma propre existence, mais je n'étais pas encore en mesure de le saisir pleinement. Peu de temps après, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt défiler une longue manifestation de Palestiniens sous le balcon de la maison de ma grand-mère dans le quartier oriental de Nazareth. Une prise de conscience a commencé à s'opérer en moi, un changement de ma perception de la réalité, un sentiment profond, plus ancien et plus grand qu'à la Palestine, se développait en moi, une forme de rébellion issue d'un lourd ressenti d'injustice. 5 ans après avoir déclamé l'hymne national israélien et 2 ans après les massacres de Sabra et Shatila, j'ai commencé à écouter Alaa Shishkin, à chanter avec Marcel Khalifa et à réciter les poèmes de Mahmoud Darwish. Après 12 ans de manifestations et de militantisme sans affiliation, je me suis engagé pleinement dans la politique. En général, ma génération était moins politisée que celle de ses prédécesseurs qui, dans les années 1970, ont mis en place l'appareil politique arabe multipartiste qui existe encore aujourd'hui. En écoutant Hazmi Bichara parler de citoyenneté et de nationalisme lors des négociations de Madrid en 1991, j'ai senti que j'avais trouvé la réponse à la question qui me tenaillait depuis longtemps. Comment concilier le monde de la politique qui exige une plongée profonde dans la réalité et mon sentiment de marginalisation qui pousse à se détacher de cette réalité. Plusieurs années plus tard, j'ai rejoint le parti politique Tajamoa, Assemblée démocratique nationale, Balad en hébreu, constitué par des Arabes en 1995. 3 ans plus tard, je me suis présenté pour devenir membre de son comité central, puis de son bureau politique. Il n'a fallu que quelques années pour que Tajamoa soit vu comme une menace stratégique pour Israël. En 2008, Yuval Diskin, alors chef des services de renseignement israélien, a placé l'organisation sur une liste de menaces stratégiques, comprenant également l'Iran et le Hezbollah. Nous avons pris cette qualification comme une confirmation que nous étions sur la bonne voie.
Merci. Merci, Jacques. Rimbana, chanson L'absent, ou L'absence. Et c'est tiré d'un poème hein, qui est très connu en Palestine et qui traite de la loi des absents. Alors, la loi des absents, c'est ce qui a été voté, décidé par le nouvel occupant israélien après 48, bon, qui a chassé les propriétaires légitimes de la Palestine et qui, après, du fait qu'ils étaient absents et empêchés de revenir, a considéré que toutes les terres leur appartenant étaient disponibles. C'est ça qui a constitué le fond de départ de possession territoriale par Israël, qui ensuite ont été distribuées, etc., en fonction de ses intérêts et de ses projets. Donc, l'idée de l'absent, bon, c'est à la fois celui qui est chassé de chez lui et qui se retrouve dépossédé. Dépossédé par un système qui se prétend légal, qui peut être basé sur un droit tout à fait mis en place de façon adéquate dans ce but, mais qui n'a rien à voir avec la justice. C'est du droit, mais c'est pas de la justice. Donc, ce sera toujours refusé par les Palestiniens. Et Rimbana l'exprime vraiment bien. Alors, elle a une particularité, c'est qu'elle s'appuie sur des aspects traditionnels dans la musique palestinienne et la musique arabe, en même temps avec des arrangements qui sont plus contemporains, ce qui lui donne une touche très originale et très particulière. Elle a une voix que moi j'estime extrêmement profonde, très expressive, avec beaucoup d'émotions. Et il est extrêmement regrettable que Rimbana nous ait quittés maintenant il y a bientôt 6 ans, alors qu'elle était encore assez jeune. Ça a été une perte pour le patrimoine palestinien, c'est certain. Mais je ne peux que vous inciter à mieux la connaître, à la chercher et à l'écouter.
Donc, il s'agit de Rimbana. Mm. Alors, nous avons quelques minutes qui nous restent. Je crois que tu avais les recommandations de lecture à nous proposer.
Oui, alors, des lectures, effectivement. comme on est dans un contexte où de toute façon on est obligé de s'informer en permanence, d'avoir un recul par rapport à l'information et les analyses, ou prétendues analyses qui nous sont assénées tous les jours, il faut prendre le temps de la réflexion et prendre le temps de la documentation. Il y a de bonnes publications, mais qui s'appuient souvent sur des petites maisons d'édition, donc pas forcément extrêmement bien relayées, extrêmement bien connues, extrêmement bien diffusées. Mais il y a le dernier livre donc de
Francesca
Albanese, c'est ça, oui, qui est sorti une petite maison d'édition qui s'appelle La Tache d'encre, je crois, ou le bon. Et c'est une lecture que je recommande parce que elle s'appuie sur vraiment tout le contexte de ce qui s'est passé depuis 2 ans et la question du droit international. Ensuite, indépendamment des lectures, on est...
Pardon Claude, le titre du livre ?
Le titre du livre.
Ah.
Un instant. Je vais y revenir, oui. Donc, par contre, indépendamment des lectures, je voulais aussi recommander de soutenir une fondation en particulier. Alors, on est beaucoup sollicité dans le mouvement de solidarité, le mouvement associatif, pour soutenir des moyens de publication. Mais là, il s'agit de quelque chose d'un petit peu différent. C'est une fondation qui s'appelle la fondation Rin Rajab, et qui a été mise en place, dont le siège est en Belgique, et qui a pour mission de poursuivre les criminels de guerre.
Alors, on est invité à faire les dons à cette fondation, Rin Rajab.
Vous faites une recherche sur fondation Rin Rajab et vous pouvez à ce moment-là contribuer à leur travail. Bon, ce que moi je fais personnellement parce que je l'ai mis un petit peu en priorité en considérant que c'était un travail qui était extrêmement important. Alors pour revenir au livre de Francesca Albanese, c'est Quand le monde dort, récits, voix et blessures de Palestine, mémoire d'encrier, s'appelle la maison d'édition, voilà, que vous pouvez commander en librairie ou trouver sur les bons présentoirs.
Voilà, donc cherchons sans cesse à entendre et amplifier les voix des Palestiniens. Alors nous arrivons à la fin de l'émission. Un dernier mot, Claude ?
Il ne faut pas oublier la Palestine.